Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence. Différence.
Différence. Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian au micro, accompagné aujourd'hui par Zora. Bonjour Zora.
Bonjour à
et
tous.
Et Sébastien est à la technique. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une nouvelle association, la Passerelle Surdicécité, à l'occasion d'un événement organisé le 28 juin prochain. Alors pour ceux qui écouteraient les archives, nous sommes en 2024 à la cartoucherie pour faire connaître la surdicécité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Anna Bartolucci. Bonsoir Anna.
Bonjour.
Et nous recevons également Cédric Rabé. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Merci à vous deux d'être avec nous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à notre micro. Alors d'abord, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots, en commençant par Anna?
Alors bonjour tout le monde, on est ravis d'être là. Donc moi je m'appelle Anna Bartolucci et je suis la présidente fondatrice de l'association La Passerelle Surdicécité.
Merci Anna. Cédric?
Bonjour tout le monde. Donc du coup, je suis Cédric, je suis une personne atteinte de surdicécité. Je suis sourd, implanté et je suis malvoyant, accompagné d'un chien guide. Et je suis membre du CA de La Passerelle.
Oui, et on peut dire, Cédric, que tu es très actif au sein de l'association.
Je sais.
Non, je confirme, il est très actif.
Donc Anna, bon, moi je ne vous connais pas, mais je poserai une question justement d'ignorante, on va dire. Qu'est-ce que la surdité?
Alors, la surdicécité?
Oui, qu'est-ce que j'ai dit? La surdicécité, oui, c'est ça.
C'est une bonne question parce que la surdicécité est vraiment méconnue de tous, hein, même des personnes concernées, en fait. Typiquement, la première fois que j'ai rencontré Christian, je lui ai expliqué qu'il était en situation de surdicécité. Vous confirmez, Christian?
Oui, je confirme que je ne le savais pas que j'étais concerné par cette situation, effectivement.
Alors, la surdicécité, c'est un handicap qui a été reconnu il n'y a pas longtemps, en fait, en 2021, par le comité interministériel du handicap. Justement, qui a reconnu la surdicécité comme un handicap à part entière et pas juste la simple addition d'une surdité et d'une déficience visuelle. Donc en gros, la surdicécité, ce sont des personnes qui ont une combinaison d'une surdité et d'une déficience visuelle, mais à des degrés variés. Donc on peut avoir des personnes complètement sourdes et aveugles. On a également des personnes qui sont sourdes, malvoyantes, malentendantes, malvoyante, malentendante, aveugle. Voilà, il y a quatre combinaisons de surdicécité.
Donc, je peux être concernée, comme je suis malentendante et...
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Exactement. De la même manière, on a des personnes qui communiquent à l'oral, en langue des signes et aussi en langue des signes tactile.
Merci.
Voilà, nous reparlerons des moyens de communication un peu plus tard dans le cadre de cette interview. J'aurais une question pour Cédric. Cédric, je voulais savoir, alors question dont j'ignore la réponse, moi aussi, tu vois Zora, je ne sais pas tout. Quel a été jusqu'à maintenant ton parcours scolaire et professionnel?
Donc, faut savoir que c'est une maladie génétique que j'ai qui s'est déclenchée à l'âge de 18 ans. Donc jusqu'à mes 18 ans, en fait, j'ai passé le bac. J'ai un bac de comptabilité et gestion. Et à partir de là, après, j'ai commencé à perdre la vue, l'audition, puis ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai travaillé dans l'entreprise d'un ami pendant plusieurs années en tant que plaquiste, tout ce qui est aménagement de bureau, tout ça. Et j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif. Du coup, et pendant 20 ans, j'ai entraîné des équipes de basket un peu partout en Midi-Pyrénées. Et voilà, j'ai arrêté l'année dernière parce que c'était plus possible pour moi. Niveau visuel, c'était trop compliqué, bien sûr. Et voilà mon parcours professionnel.
Ah, merci, j'apprends des choses aussi. Tu avais une spécialité au niveau sportif?
C'est ça, oui. J'étais dans le basket. Pardon.
Ah, oui, d'accord, oui, c'est effectivement. Hein.
Mes dernières équipes, c'était sur Romoville. J'entraînais sur fille de Romoville.
Très bien.
Anna, comment votre parcours professionnel vous a amené à vous intéresser à la surdicécité?
Ben, moi, j'ai envie de dire que ça a commencé quand j'avais 10 ans. J'ai lu un livre qui m'a marqué, un livre de Helen Keller, qui est une célèbre sourde aveugle américaine, qui est décédée depuis longtemps. Et donc déjà, je me suis intéressée à ce monde-là. Et ensuite, j'ai fait des études de psychomotricité. Donc je suis psychomotricienne et on m'a à un moment donné dans mon parcours recrutée pour aller me former au Canada, au Québec, pour être instructeur de locomotion. Donc rééducateur dans les déplacements pour les personnes déficientes visuelles. Et ensuite, j'ai eu la chance de rester travailler à Montréal au programme en surdicécité, donc en fait, qui est un service de réadaptation pour des personnes en situation de surdicécité. Et quand je suis rentrée en France, donc ça c'était il y a 17 ans, en fait, ça y est, j'étais mordue de la surdicécité et j'ai continué à accompagner ces personnes-là. Et c'est ce qui m'a menée aujourd'hui à monter cette association avec Cédric et puis le reste de l'équipe.
Par curiosité, pourquoi le Canada? Est-ce que c'est beaucoup plus approfondi au niveau par rapport à l'apprentissage pour les diplômes? C'est plus complet, on va dire.
Y a une très bonne formation pour les instructeurs de locomotion au Québec déjà, qui s'appelle là-bas, c'est les spécialistes en orientation mobilité. Et c'est vrai que, en tout cas, l'approche autour du handicap est vraiment, vraiment une belle approche, notamment dans les services de réadaptation. Donc c'est un bel exemple en effet, Montréal, et notamment sur la surdicécité, ils sont bien en avance. Alors maintenant, grâce à cette reconnaissance officielle de la surdicécité, la France est en train de rattraper son retard. Notamment, il y a une mission ministérielle actuellement qui réfléchit pour améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Mais oui, on peut dire que le Canada et le Québec en général est un bel exemple.
Et comment, ça c'est aussi une curiosité, comment saviez-vous que le Canada était beaucoup plus en avance?
Alors non, pas du tout. Moi j'ai été recrutée en fait par un centre de réadaptation qui m'a envoyée là-bas. Donc j'ai tout découvert à l'âge de 23 ans quand je suis arrivée à Montréal. Et voilà, j'ai eu la chance en fait dans mon parcours qu'on me propose cette formation.
Ouais, c'est bien, super, merci.
De rien.
Alors j'aurais une question pour Monsieur Cédric. Donc tu nous expliquais tout à l'heure que tu as une maladie génétique et que tes difficultés auditives et visuelles ont commencé à l'âge de 18 ans, si j'ai bien compris. Donc je voulais savoir comment tu as vécu l'arrivée de ce double handicap et quels outils et quelles stratégies tu as mis en place pour y faire face.
Au début c'était un peu compliqué parce que moralement c'est compliqué parce que quand les docteurs m'ont annoncé que je deviendrais sourd et aveugle mais sans savoir quand, du coup forcément à 18 ans quand j'ai pas pu passer mon permis de conduire mes projets ont changé parce que du coup dans ma tête ça tournait plus pareil et j'ai eu la chance d'être entouré par la famille, ça c'était important. Après, c'est vrai qu'au début, je me suis plus concentré sur le visuel, parce que l'auditif est arrivé un petit peu après. J'avais pas vraiment de solution, parce que les lunettes, tout ça, ça faisait rien pour moi. Et surtout, ma maladie n'était pas connue. C'était une maladie, ce qu'on appelait une maladie orpheline, une maladie rare. Du coup, à l'époque, on n'était que 4 à l'avoir en Europe. Donc, il n'y avait pas vraiment de perspective, enfin, de vision sur le futur pour moi. Donc ça a été compliqué sur le plan moral. Et puis après, petit à petit, on a cherché des solutions. Que je cherche toujours d'ailleurs. Mais bon, on y arrive.
Tu as un appareillage un peu compliqué. Tu as des implants cochléaires. Sans rentrer dans les détails pour ne pas faire peur aux auditeurs, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit?
En 2011, je me suis fait implanter à droite l'implant cochléaire. Du coup, parce qu'ils jugeaient qu'en fait, je ne récupérais plus en audition. Du coup, en fait, ça stimule directement le nerf auditif. En 2018, j'ai fait le côté gauche. Mais là, maintenant, petit à petit, mes nerfs sont en train de mourir. Et du coup, en fait, ça stimule de moins en moins. Et ça fonctionne de moins en moins aussi. Ça a bien fonctionné pendant 10 ans, on va dire. Et ça devient compliqué.
C'est un peu compliqué, là.
Donc Anna, pouvez-vous nous présenter l'association La Passerelle?
Alors, la passerelle sur Dyscécité, c'est une jeune association qui a été montée, qui a été créée du coup en avril 2023. Et elle avait d'emblée pour objectif en fait de porter des projets. Donc c'est la particularité de cette association-là, pour répondre à des besoins qui ne sont pas couverts pour ce public. Donc le premier, en fait, à la passerelle sur Dyscécité, donc on accompagne des personnes en situation de surdicécité, mais on vient aussi en soutien aux proches aidants et à l'entourage, et avec la volonté aussi d'agir sur la société, donc pour la rendre plus inclusive. Et c'est pour ça qu'on a trois axes différents. Donc il y en a un qui est de favoriser le lien social, la participation, des temps de rencontre, des activités, un peu comme ce que vous faites à Café & Co. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux besoins d'autonomie de ces personnes-là, parce que quand on a un double handicap, on a besoin de pouvoir se débrouiller dans la vie quotidienne, comme le disait Cédric. Donc là, l'idée, c'est pour avoir des professionnels ou d'orienter vers les bonnes ressources pour garder le plus possible une autonomie dans sa vie de tous les jours. Et le troisième volet, c'est un volet de formation. Donc voilà, accompagner en fait des bâtiments pour qu'ils soient le plus accessibles possible, former les professionnels pour améliorer l'accueil des personnes sourdes aveugles dans les différents lieux de santé ou autres.
J'avais des petites questions subsidiaires pour Anna. Est-ce que les personnes en surdicécité sont impliquées sur le volet formation ou pas du tout pour le moment ?
Oui, tout à fait. Donc les formations, en fait, pour le moment, celles qu'on propose, c'est des formations courtes. Il y en a une qui est mieux comprendre la déficience visuelle avec des mises en situation. Donc ça, c'est deux professionnels. La deuxième, c'est comment on accueille, comment on interagit, on communique avec une personne qui est sourde quand on ne connaît pas la langue des signes. Donc ça, c'est un professionnel qui est sourd, un professionnel de langue des signes. Et le troisième, c'est la surdicécité, où là, sur ces formations-là, c'est Sarah qui intervient et qui est elle-même en situation de surdicécité et qui est atteinte d'un syndrome aussi d'une maladie rare.
Ah, très bien.
En fait, tous nos projets à la passerelle sont vraiment imaginés, réfléchis en lien direct avec les personnes en situation de surdicécité.
Oui, et est-ce que, moi c'est aussi l'aspect médical, est-ce que vous êtes aussi en collaboration avec des médecins pour justement améliorer au niveau de la technologie, enfin tout ça pour par rapport à la maladie, non ?
Alors les besoins qui ressortent au niveau médical, en effet, c'est notre troisième volet qui est le pôle un peu ressources qu'on appelle. L'idée, c'est de pouvoir surtout améliorer le parcours de soins au niveau du CHU, parce que la surdicécité, c'est deux handicaps et c'est encore très cloisonné. Que ce soit au niveau du soin ou de la vie de tous les jours, on a vraiment la surdité d'un côté, la déficience visuelle de l'autre. Et malheureusement, la surdicécité, ça vient complexifier tout ça. C'est pas la simple addition. Donc oui, c'est dans les projets. On est en lien avec le CHU de Toulouse pour réfléchir à des projets pour améliorer le parcours de soins.
Quand par exemple on le détecte tôt, ça, on a plus de possibilités d'avoir des guérisons. Je sais pas, mais une amélioration au niveau de de l'audition, on va dire, non ? Je sais pas.
Alors, je suis pas médecin, donc je sais pas à ce niveau-là, mais je dirais que plus c'est pris en compte tôt, c'est plus dans l'accompagnement de la personne. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment suite à l'annonce de diagnostic qu'il puisse avoir, il y a un relais tout de suite, un temps de rencontre avec un psychologue, par exemple, mais aussi avec une personne en situation de surdicécité pour pouvoir être informé, se projeter, comme disait Cédric, en fait, savoir comment va se passer cette vie future.
Ouais. Et je crois que vous envisagez aussi de travailler avec les audioprothésistes qui sont pas toujours, connaissent pas toujours bien ce double handicap pour les sensibiliser aux besoins spécifiques des personnes en surdicécité, pour être notamment mieux à l'écoute de leur environnement, par exemple.
Alors, on travaille déjà avec un audioprothésiste, depuis très longtemps, qui est en effet sensibilisé. L'idée, c'est en effet d'accompagner les audioprothésistes, parce que ce qui se passe, c'est que d'habitude, les prothèses auditives, elles sont faites pour les personnes malentendantes. Donc, elles sont faites pour vous permettre de mieux communiquer, comprendre la parole. Sauf que quand, en plus, on a un problème visuel, On a aussi besoin d'entendre les bruits de la circulation pour traverser en sécurité.
Oui, et donc, ça c'est vrai.
Voilà. Et ça, ça demande aussi des réglages spécifiques pour les appareils auditifs. Et c'est pour ça que c'est important que les audioprothésistes qui ne connaissent pas la surdicécité puissent être sensibilisés et formés pour avoir en tête que ces appareils auditifs, ils vont aussi bien permettre de mieux communiquer, mais aussi de mieux entendre les bruits de la circulation.
On peut être désorienté. Enfin, moi, me connaissant, je sais que je suis assez désorientée quand j'entends beaucoup de bruit, même avec les appareils. Hein. Bon, après, c'est à toi, Christian.
Oui, pour reprendre donc le fil de la discussion, alors je voulais savoir quel est votre rôle au sein de l'association, en commençant peut-être par Anna.
Bonne question. J'ai envie de dire là, à l'heure actuelle, j'ai toutes les casquettes. beaucoup de tâches administratives, malheureusement, mais ça fait partie du quotidien. Structurer un peu tout le projet et surtout le gros du travail, c'est d'aller chercher des financements, parce qu'on parle de projet, mais malheureusement, c'est les financements qui vont permettre de mener à bien ces projets. Donc voilà, il y a une grosse partie qui est liée à ça. Et en fait, dans la partie plus opérationnelle, j'ai la chance de pouvoir me reposer sur Cédric, entre autres, et les autres membres de l'équipe qui, eux, vraiment animent et font vivre la passerelle.
Et vous avez complètement abandonné votre casquette d'instructrice en locomotion, ou c'est une compétence que vous souhaitez remettre en place au sein de l'association ultérieurement, quand vous aurez moins d'administratif ?
Alors, j'adore mon travail, mais malheureusement, oui, je l'ai abandonné, mais ça, je l'ai abandonné avant la passerelle. D'accord. Petit à petit, au fur et à mesure des années, pour me consacrer de plus en plus au développement de projets, parce que ce qui m'anime vraiment, c'est de répondre aux besoins des personnes en surdicécité. Et même si j'adore mon travail, j'ai endossé une autre casquette pour essayer de me rendre le plus utile possible.
Alors Cédric, Anan vient de nous expliquer qu'elle se repose aussi beaucoup sur toi pour l'organisation de la vie de l'association. Je peux dire aussi que je suis concerné, donc je suis adhérent et je peux en témoigner. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton rôle simplement et tout ce que tu mets en place ?
J'adore, dans tout ce qui est du projet déjà, j'adore quand elle a besoin, sur l'administratif un petit peu. Mais après, au sein de l'association, j'organise tout ce qui est les activités, avec Delphine. Je ne suis pas tout seul, on est deux. Il y a Delphine aussi qui est l'association. Et on fait tout ce qui est activité. Après, mon rôle, je pense ça aujourd'hui, c'est de fédérer un groupe. C'est ce que j'aime, ce que j'ai fait pendant mes années d'entraîneur de basket. C'est on fédère un groupe grâce au WhatsApp. Petit à petit, on a un noyau qui s'est créé, dont tu en fais partie, Christian. Et j'en suis très content.
On peut dire qu'il anime très bien le groupe, d'ailleurs. Il y a pas de...
Et du coup, on organise des activités le vendredi avec les amis de chacun. Donc c'est un peu mon rôle, je questionne un peu chacun, voir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Par exemple, il y en a qui veulent faire de la peinture, il y en a qui veulent faire des ateliers braille. Donc là, je fais appel aux professionnels du braille, comme Christian, pour nous animer un petit atelier. On fait plein de choses comme ça, des jeux, beaucoup de jeux, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment les jeux. Par exemple, vendredi prochain, on va organiser une compétition de Jenga. Parce qu'on a une adhérente qui nous a parlé qu'aux États-Unis, les sur-aveugles jouaient beaucoup au Jenga. Et on a acheté un Jenga et vendredi, on va jouer au Jenga. Je prends les envies des uns, des autres et je les mets en place.
Anna, bon, ça n'a pas un rapport avec Cédric, mais Cédric, je lui poserai la question à la fin après. Donc... Anna, donc ça concerne justement la question précédente, on va dire. Alors, quel est, ça se rejoint. Quel est l'état d'avancement de la création, que moi je ne connais pas, du GEM ?
C'est en de très très bonnes voies. la passerelle, comme je disais, c'est trois projets et Cédric est sur un des trois projets qui est en effet le GEM. Donc quand il parle d'activité, d'entraide, ça c'est le GEM. Un GEM, c'est quoi ? C'est un groupe d'entraide mutuelle. Il en existe déjà beaucoup en France dans d'autres handicaps et suite à une annonce du président de la République, donc de M. Macron, qui a annoncé en 2023 la création en France de GEM sur dyscécité. Donc nous, on est pilote là-dessus. Donc on va... d'ici peu, pouvoir l'officialiser, être le premier GEM sur dyscécité de France. Donc voilà, donc ça veut dire que en fait, tout ce qu'on fait déjà, on va pouvoir le faire beaucoup plus en ayant les moyens de le faire. Donc on est en recherche d'un local permanent. Donc on va garder notre local qu'on a au hall de la cartoucherie un jour par semaine, parce que c'est un lieu qui est magnifique, avec, où on peut vraiment imaginer justement plein de passerelles et travailler l'inclusion, mais on va aussi avoir besoin d'un lieu permanent pour se faire un petit cocon comme vous avez ici à Café & Co.
Donc vous pourrez bientôt l'accueillir, Macron, du coup.
Exactement, on va l'inviter. C'est ça.
C'est à toi, Christian.
Oui, je sais bien. Et donc, je voulais savoir quelles sont les activités que vous envisagez dans le, au sein du GEM. Alors, c'est une question qui est pour tous les deux. Vous voyez ce que...
Cédric me fait signe de répondre. c'est dommage parce qu'il répond mieux que moi parfois à certaines questions. D'accord. Tu complèteras ? Alors, comme le dit Cédric, en fait, l'objectif d'un GEM, c'est de partir vraiment de l'envie des personnes. Donc, voilà, au début, on était plutôt force de proposition parce qu'on était en pleine création. Petit à petit, on voit que les personnes, en fait, elles s'impliquent de plus en plus et c'est vraiment le but hein, de développer ce qu'on appelle le pouvoir d'agir de chacun. Alors, ça peut aller de ce qu'on remarque après un an d'expérimentation, c'est. Des temps informels déjà, les gens ils ont juste envie de se rencontrer, de venir, de boire un jus. On n'a pas encore de café associatif comme vous, mais on aimerait bien.
Ça va se faire.
Ça va se faire. Des activités, des sorties culturelles aussi. Et après, on a beaucoup de demandes qui vont nous demander d'innover. Donc je dis ça par exemple, on a beaucoup de demandes sur la formation à la langue des signes pour des personnes qui perdent l'audition, comme Cédric. De formation à la langue des signes tactile pour des personnes qui sont sourdes aveugles déjà en langue des signes et qui perdent la vue. Des formations au braille. Donc un GEM, ce n'est pas un lieu de formation, mais on a quand même à cœur de pouvoir apporter un début de réponse. Donc on va avoir, comme vous, j'imagine, parce que je vois sur votre tableau d'affichage qu'il y a aussi tout un volet formation. Voilà, on est là pour répondre à la demande. À l'heure actuelle, c'est celle-ci, mais si on se revoit dans 3 ans, j'imagine qu'elle aura évolué aussi.
On l'espère en tout cas. Et un GEM, concrètement, comment ça fonctionne ? C'est avec des bénévoles, des salariés, des intervenants extérieurs ?
Alors, heureusement pour nous, c'est avec des salariés parce que ça va nous permettre de... Là, on vient de passer un an et demi de bénévolat. Alors moi, j'ai quitté mon travail pour m'investir à temps plein là-dedans. Donc, ma réalité est que je suis au chômage pour développer ce projet. Donc là, on va enfin pouvoir se salarier. Donc, en gros, on va être 4 salariés. Cédric en tant qu'animateur, Delphine qui est éducatrice spécialisée, moi sur des fonctions de direction et l'embauche d'un interprète en langue des signes qui va nous permettre de rendre accessible toute cette vie sur le GEM. Et après c'est beaucoup de bénévoles. Nous les bénévoles essentiellement c'est beaucoup de bénévoles qui maîtrisent la langue des signes et la langue des signes tactile.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous communiquez entre vous? Donc au sein du GEM.
Au début, c'est vrai que c'était un peu compliqué, enfin pour moi. Même au début, même j'ai pris peur au début parce que du coup, je me dis mais comment je vais faire en fait. Mais finalement, on s'adapte en fait. Il y a plein de moyens de s'adapter. C'est pas parfait aujourd'hui parce que on a tous. Je pense à Christian qui se pose beaucoup de questions quand il vient. Comment je vais faire pour communiquer avec une personne qui a un signe? Comment je vais faire? On s'adapte au maximum nous déjà qu'on organise. On essaye de mettre au maximum des interprètes, rendre la communication accessible. Et c'est ça, on est tout le temps en train de s'adapter. Par exemple, on a organisé un café rencontre en mars, il me semble, où il n'y avait que des personnes insurdicitées. Il y avait des personnes comme Christian et moi, malentendantes. Il y avait des personnes sourdes. Et on a mélangé les groupes. Et pendant 15-20 minutes, chaque groupe devait échanger entre eux. Et c'était magnifique parce que Christian, ce jour-là, il a pu rencontrer des personnes qui étaient en langue des signes tactile grâce à des interprètes. On a pu communiquer avec tout le monde, c'était super. Et depuis, je vois que depuis, tout a changé. Je vois Christian, par exemple, il prend plus de plaisir. Déjà, il vient un peu plus. Avant, il venait pas
et
trop.
Oui, et oui. Et j'ai depuis... du mal à venir jusqu'à la cartoucherie, mais j'essaie.
Et depuis, il vient un peu plus parce que ce mode de communication s'adapte tout le temps, en fait. C'est ce qui fait notre force.
Oui, parce que je parle pas en mon nom, mais comme je parle aussi pour Anna, enfin ça c'est pour les deux. Il y a une malvoyante qui est sourde aussi, et d'ailleurs muette aussi, hein, qui vient à l'UNADEV, qui est à l'Union des déficients visuels. Donc elle participe à des activités, et justement il y a une interprète avec elle. Et qui, on a fait un film justement sur la perception, et elle a expliqué le mode de communication. Et c'était tout par la main. Alors je ne sais pas si vous communiquez avec la main, à travers la main, ou sur. Enfin voilà, c'est. Il ne faut pas être. Comme il disait, on ressent trop l'agressivité, donc il faut être en douceur, quoi. C'est. Enfin, je sais pas trop. Comment vous. Si c'est la main,
oui.
Si c'est.
Alors, on la connaît très bien, parce qu'elle vient régulièrement, la personne dont vous parlez. En fait, on parle de langue des signes tactile depuis tout à l'heure. En fait, ça, on peut le mettre dans ce qu'on appelle les communications tactiles. Donc, il y en a plusieurs. La langue des signes tactile, c'est des personnes qui communiquaient en langue des signes. Visuel, comme une personne sourde, mais qui petit à petit perd la vue et ne voit pas, n'est plus en mesure de voir les signes. Donc en fait, il y a quelqu'un qui signe et la personne sourde aveugle pose les mains sur la personne qui signe. Donc en fait, elle sent, elle écoute en fait avec ses mains. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est la langue des signes tactile. Alors moi, j'ai été formée à la langue des signes et je peux communiquer en langue des signes tactile. Je suis pas du tout experte, mais en tout cas, je peux avoir un échange et communiquer avec les gens. Cédric prend des cours individuels de langue des signes et c'est ce qui lui permet de communiquer aussi. Voilà, on est tous en train de se former. Et après, il y a deux autres communications tactiles qui sont très peu connues, qui sont la communication pro-tactile et haptique. Alors là, je pourrais pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, c'est des informations qui sont données aussi sur le corps, qui viennent compléter la langue des signes tactile.
Oui, c'est-à-dire, par exemple, elle disait, par exemple, il y a une feuille d'arbre, elle explique qu'elle voit un arbre avec des feuilles, etc. Elle lui dessine la feuille, sur le corps, comme ça, sur l'épaule, c'est ce qu'elle expliquait, c'est ce que moi je comprenais en tout cas.
Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une information qui est complémentaire. Par exemple, cette personne-là va communiquer en langue des signes tactile avec la personne qui est en face. Elles vont avoir une discussion et il peut y avoir quelqu'un en plus qui va lui donner des informations sur le bras ou dans le dos pour lui dire ce qui se passe dans la pièce. Ouais. Y a aussi des vidéos qui tournent pas mal sur les réseaux où y a des personnes sourdes aveugles qui sont capables de suivre un match de foot, de rugby, grâce à ce mode de communication où elles vont sentir les joueurs qui se déplacent, comprendre en fait l'action.
Et moi, pour répondre à la question de Zora et des auditeurs, je voulais vous faire partager mon expérience. Puisque j'ai intégré l'association La Passerelle sur Diversité, c'est vrai qu'au départ, c'est une question que je me posais aussi. Comment je vais communiquer avec des personnes qui ont des modes de communication très variés. Il y a des personnes aussi qui signent en visuel parce qu'elles voient encore un petit peu, d'autres qui signent en tactile. Et finalement, avec le temps, on s'y habitue. Déjà, il y a des interprètes, bien sûr, quand on est en présentiel, qui facilitent la communication. Mais aussi, de nos jours, alors au moins pour les personnes qui maîtrise l'écrit, je ne sais pas si c'est le cas de toutes les personnes, mais il y a des moyens de communiquer grâce aux nouvelles technologies. Par exemple, j'ai fait la connaissance d'une jeune dame il y a quelque temps dans un café rencontre de la Passerelle qui a commencé à me parler en langue des signes tactiles. Alors elle utilisait une méthode un peu différente, comme elle savait que je ne connaissais pas la langue des signes tactiles. Elle m'a fait du braille sur les mains. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas trop habitué, donc j'avais du mal à déchiffrer, mais il y a une interprète qui nous a aidés. Par contre, ensuite, à distance, nous avons pu communiquer sans problème à l'écrit par WhatsApp et on a eu une conversation de plus d'une heure sans difficulté grâce aux nouvelles technologies. Et je trouve ça formidable aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez Anna et Cédric.
Moi, je suis entièrement d'accord, t'es l'exemple type en fait Christian. Parce que avant, au tout début, on s'écrivait beaucoup. Parce que tu n'osais pas trop venir, tu ne savais pas, tu te posais beaucoup de questions. Et là, l'exemple, tu viens de parler de Solina, du coup, qui t'a montré le tactile, le braille, tout ça. Et c'est exactement ça qu'on vit tous les vendredis, en fait. On rencontre de nouvelles personnes qui nous apprennent de nouvelles choses. Et c'est bien, en fait, c'est merveilleux. Et du coup, maintenant, tu viens plus facilement à la passerelle. Et tu as envie de découvrir de plein de nouvelles choses.
Alors maintenant, nous allons passer à une autre partie de notre interview qui sera la dernière, je vous rassure.
Pas tout à fait. Encore un petit peu.
Le 27 juin, vous organisez, le 28 juin, pardon, vous organisez une grande journée dans le cadre de la Journée mondiale de la surdicécité qui se déroulera à la Cartoucherie. Alors, pouvez-vous déjà, Anna, nous expliquer le contexte et les objectifs de cette journée avant qu'on détaille peut-être un peu plus le programme ?
Oui, alors en fait, la Journée mondiale de la surdicécité, c'est la même date partout dans le monde. Normalement, c'est le 27 juin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la date anniversaire de la naissance d'Hélène Keller, donc la fameuse célèbre sourde aveugle américaine. Et alors nous, on était dans l'impossibilité de faire ça le 27, donc on a décalé au 28. Mais il y a des événements, ce jour-là en tout cas, partout dans le monde, il y a des initiatives qui sont mises en place. Et il y en a une qui est le yarn bombing. En fait, c'est du balancement de tricots de toutes les couleurs. Alors malheureusement, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas développé parce qu'on n'avait pas les ressources, personne ne savait tricoter et on n'a pas pris le temps de
s'asseoir. Heureusement pour moi.
Fallait me demander.
Et du coup, c'est une journée qui est organisée en partenariat avec Toulouse Métropole, Ville pour tous, et les Halles de la Cartoucherie. C'est une journée qui se veut ouverte à tous, donc aussi bien grand public, personnes en situation de surdicécité, famille, professionnelle, institutionnelle, dans le but de mieux comprendre ce que c'est que la surdicécité, rencontrer des personnes sourdes aveugles. Voilà, donc il y a une matinée...
Donc c'est bien le 28 à Toulouse, et c'est pas le 27.
C'est le 28.
C'est où ?
C'est au Halles de la Cartoucherie.
D'accord.
Voilà, c'est partout dans les Halles. Mmh. Et donc, du coup, avec une matinée conférence, il y a deux conférences. Il y en a une qui est la PCH surdicécité, parce qu'il y a une nouvelle PCH qui est sortie en janvier 2023, justement. La PCH, la prestation de compensation du handicap. Merci. Cédric, tu peux peut-être expliquer la PCH, toi ? À quoi ça sert ?
La PCH, ça nous aide à nous, personnes en tant que surdicité, subvenir à nos besoins des frais qu'on n'aurait pas dû avoir si on n'était pas dans cette situation de handicap. Par exemple, ça me permet de financer des cours de langue des signes. Ou ça peut aussi m'aider à des transports. Ou à payer quelqu'un pour aider à téléphoner si j'en ai besoin. En fait, c'est la compensation en fait, par rapport à mon handicap. Donc, à chacun peut l'utiliser différemment. Mais voilà quoi.
Donc, du coup, il y a une conférence sur cette thématique-là. Voilà.
Ça peut servir, j'imagine, par exemple, pour ceux qui en ont besoin, pour rémunérer un interprète en langue des signes tactile, parce que j'imagine que ça a un coût important. Donc,
Oui, et puis il faut se dire que, par exemple, une personne en surdicécité qui communique en langue des signes doit aller chez le médecin. Elle a besoin d'un interprète, elle doit aller, rencontrer un kiné, c'est pareil, en fait ça c'est des coûts que nous on n'a pas besoin mais qui viennent se surajouter en fait au quotidien, donc cette PCH est faite pour ça et elle est nouvelle.
Et les horaires, c'est de quelle heure à quelle heure ?
Alors 9h30 un accueil café suivi donc de cette conférence là et d'une autre qui est les premières conclusions officielles de la mission ministérielle sur surdicécité. Donc c'est une mission qui touche à sa fin, qui a duré 2 ans et qui était là pour faire un état des lieux de ce qui existait et des manques en France et faire des propositions très concrètes pour améliorer la vie de ces personnes là. Donc là on a une conférence là-dessus, ça se termine à 12h30. Voilà.
Oui.
La matinée sur inscription par contre parce que le nombre de places est limité.
Moi je serais intéressée.
Et l'après-midi se veut plus festif, voilà. Donc il y a plein de stands et d'ateliers qui sont organisés en partenariat étroit par des professionnels et animés par des personnes sourdes aveugles. Donc on a plein d'ateliers de sensibilisation sur les outils numériques, la locomotion, la vie quotidienne. Faut venir.
Oui, bien sûr.
Avec plaisir.
Ah, oui, moi je vais m'inscrire à l'association aussi. Bon, ça, c'est après.
Chouette, on a récupéré une adhérence.
Cédric, tu veux nous en dire un peu plus, peut-être, sur les activités qui seront mises en place l'après-midi pour le grand public ?
L'après-midi, du coup, il y aura plein d'ateliers, comme a dit Anna, dans la salle du forum, à la Cartoucherie. Il y aura des ateliers, du coup, ateliers braille, ateliers locomotion, ateliers vie quotidienne, ateliers langue des signes. Atelier numérique, et il y aura un stand de la passerelle aussi, et atelier jeux sous bandeau. Donc ça sera pour la salle de forum, c'est tout ce qui est sensibilisation. Donc c'est autant pour le grand public, pour que les proches aidants, pour tout public. Après, dans la salle Esquirol, hein, qui est un peu plus au premier étage, qui est au premier étage de la cartoucherie, il y aura beaucoup de stands d'associations. Bon, juste pour en citer quelques-unes, une ADEVA, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y aura une ADEVA, il y aura l'Institut des jeunes aveugles, il y aura
L'AZI, Cap Emploi,
D'accord. L'USS.
L'unité d'accueil et de soins pour sourds du CHU, oui. Mmh.
IRIS, le centre de formation en langue des signes. L'école des chiens guides, qui sera là.
Mmh. On va vous faire découvrir le tandem aussi, je crois, avec la VH.
Et donc
aussi.
Là, à l'extérieur, on y vient. À l'extérieur, il y aura le tandem avec AVH. Il y aura le CC Rugby.
Avec Jean-Gabriel, présent. Que nous avons déjà reçu à ce micro, d'ailleurs, pour les auditeurs.
Et il y aura l'Andisport qui présentera le tir à la carabine et le CC Pétanque.
Un beau programme, hein, un beau programme.
Voilà. Mmh, et de 17h à 18h dans la salle, 16h à 17h30 à la salle d'escalade The Roof, il y aura de l'escalade sous bandeau, hein, mise en situation par les professionnels de la cartoucherie.
Oui, c'est bien.
Et je crois qu'il y aura un spectacle pour finir la journée, c'est bien ça ? Je ne veux pas dire de bêtises. Un concert ou...
On finit la journée par un chansigna.
Chansigna. Donc ça, c'est très sympa. On avait assisté au banquet de la sollicité. C'est vraiment bien pour que tout le monde puisse suivre.
C'est bien.
C'est sympa, ouais.
Ça va être bien, ça. Oh, ça va me plaire, mon sang. Alors...
Venez. Nous vous attendons nombreux. C'est une journée qui est entièrement gratuite. Voilà, dans la bonne
mais
humeur,
c'est même pas
festive.
Même que ce soit gratuit ou pas, je serais venue de toute façon. Alors, quel lien... du coup, là, ça, c'est pas du tout... c'est autre chose. Mais je pense que ça va vous intéresser. Quel lien envisagez-vous avec Café & Co?
Alors là, on a tout à construire et imaginer. On s'est rencontrés une première fois déjà. Alors déjà, le lien premier, c'est Christian. Qui fait aussi la passerelle, hein, entre Café & Co et notre association. Et ensuite, on s'est rencontrés avec Sébastien et on s'est de suite dit qu'il y avait plein de choses à imaginer, qu'on allait nous déjà se prendre le temps de s'installer parce qu'on est plus jeunes que vous. Mais Café & Co, de ce que je comprends aussi, est beaucoup sur l'inclusion professionnelle. Nous, c'est quelque chose qui remonte dans les besoins des personnes. Donc, c'est certain qu'on va croiser un peu nos expériences et imaginer des choses ensemble ou même des activités communes.
Ça, c'est chouette. Ouais. Mmh. Et en tout cas, ça peut être un début déjà. Espérons que, je sais que j'en ai parlé hier avec Céline, peut-être qu'un groupe de Café & Co pourra venir le 28 juin justement pour pouvoir déjà découvrir avec des jeunes qui s'intéressent notamment à la langue des signes. Ça peut être chouette qu'ils puissent venir ce jour-là peut-être.
Avec grand plaisir.
Alors Cédric, j'avais une question pour toi. Alors, malheureusement, nous n'avons pas encore de webcam là, à Café & Co, mais tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec ton chien guide River, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, on voulait savoir, il y avait des collègues qui voulaient savoir déjà comment tu l'as obtenu, par quelle association
River, il m'a été remis il y a 2 ans et demi maintenant, par l'école des chiens guides du Grand Sud-Ouest, hein, qui se situe à Toulouse, à quelques mètres d'ici. Et depuis deux ans et demi, on forme un binôme merveilleux. Et voilà, j'ai eu la chance de l'avoir assez rapidement. Voilà.
Et que t'apporte-t-il au quotidien ?
Au quotidien, il m'apporte beaucoup. Déjà parce que j'ai eu une période où j'étais entraîneur de basket à Romainville. Du coup, à cette période-là, je me déplaçais beaucoup en train, métro, et je rentrais la nuit chez moi. Et moi, c'est la nuit, je n'y vois pas beaucoup, ou je suis très gêné par le soleil. Et du coup, à ce moment-là, il m'a beaucoup apporté. Ça arrivait que la nuit, ce soit lui qui faisait le trajet. Et il m'a aussi permis d'être facilement plus identifiable. Parce que forcément, c'est un handicap qui ne se voit pas forcément, d'être malin, sourd et malvoyant. Et du coup, River me permet facilement d'être identifié par les gens. Et puis il m'accompagne toujours. Donc c'est un grand plus pour moi en fait.
Qu'est-ce que vous retenez de ce passage à Café & Co ?
C'est un lieu déjà quand on arrive, on est bien. Ça fait 2-3 fois que je viens, il y a de la vie. Donc voilà, on est ravis de pouvoir avoir ce temps d'échange et de vous rencontrer et puis d'imaginer aussi la suite ensemble.
En tout cas, moi qui ne connaissais pas l'association, je dis en mon nom, ça m'intéresse. Déjà, c'est par l'information par Sébastien. Déjà, je tiens à le dire, mais c'est parce qu'il est là. Hein, mais il m'a dit que, sachant que je suis aussi malentendante et atteinte de cécité, donc c'est pour ça qu'il m'a dit viens, ça, le sujet va t'intéresser, etc. Effectivement, et là j'ai découvert l'association, je ne connaissais absolument pas, bien que j'ai vu cette fille dont je vous ai parlé, où je m'interrogeais beaucoup sur la communication. Et là j'ai beaucoup appris, et ben je vais adhérer évidemment parce que ça nous sert, hein, on est concernés, hein, donc on ne peut pas être indifférent, c'est clair. Et puis ça va nous apporter en plus un plus, quoi, hein, donc voilà, et on peut comprendre les difficultés des uns et des autres. Voilà, c'est ce que je retiens. Aussi au niveau psychologie, c'est pas toujours évident, et moralement, il faut avoir un sacré courage. Donc voilà, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas moi, avec vous, et ça a été très très intéressant et très enrichissant. En tout cas, merci de votre passage, pour moi en tout cas.
Et Cédric, je sais aussi que tu voulais venir ici depuis longtemps. Quelles sont tes premières impressions sur ce lieu?
On a eu un très bon accueil. C'était vraiment super. La salle, ça donne envie, parce que c'est un peu ce qu'on va faire plus tard. Après, c'est vrai que la première impression, je peux me dire que j'ai un peu pris peur niveau bruit. Niveau sonore, pour moi, c'était compliqué.
D'accord, tu as de la chance, c'est calme aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense qu'on est en heure de pointe, parce que là, c'est plutôt calme maintenant. Et sinon, franchement, c'est chouette. Merci pour votre accueil.
Mais merci à vous deux. Je suis ravi de vous avoir reçu, Anna et Cédric, avec Zora, d'avoir fait connaître la passerelle et la sourdicité aux auditeurs. Donc, pour ceux qui voudraient en savoir plus, peut-être venir le 28, donc l'après-midi, c'est inscription, c'est libre, mais le matin, les conférences, c'est sur inscription. On peut peut-être donner le mail de contact, Anna?
Oui, tout à fait, c'est contact@passerellesurdicécité.org.
Voilà, tout attaché.
Tout attaché.
Voilà. Et après, je crois que vous êtes... Il y a un site internet qui est en construction, mais vous êtes présent sur les réseaux sociaux, je crois aussi déjà sur...
Oui, on est pour suivre notre actualité sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour les professionnels.
Merci à vous deux, en tout cas, nous sommes ravis de vous avoir reçus.
Merci à
Sébastien qui a assuré la technique. Et à très bientôt pour un prochain épisode.
Merci à tous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.